Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. À propos des studios de Micro Rebelle, notez bien le fait que nous avons déménagé. Nous sommes toujours à Liévin, mais en centre-ville, au 13 rue Victor Hugo, à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta. Notez bien cette adresse et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas. Les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Je suis Lucien, bénévole militant en Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle. Luc est salarié à Micro Rebelle.
Salut à tous et à toutes.
Enfin, vous l'entendrez, cette émission a été préparée avec Touga et Nadine, toutes deux adhérentes de Micro Rebelle. Nous vous proposons sans attendre l'agenda social et culturel des jours à venir. Il a été préparé par Touga.
Si je vous dis un lieu politique, convivial, festif, pour les gens, les associations, les collectifs, les individus, où l'on peut réfléchir, débattre, s'informer, lutter, manger, danser, regarder des films. Si je vous dis un lieu autofinancé, sans subvention, indépendant de tout lobby ou parti politique, dans le bassin minier, vous me répondez quoi ? Le lac, bien sûr ! Le lieu autogéré de Liévin. Figurez-vous que cette belle aventure fête ses 6 ans le samedi 20 octobre et pour l'occasion vous propose de le fêter à partir de 19h lors d'une soirée festive et politique. Le programme de la soirée. À 19h, un apéro politique et dînatoire. Tout se fait un verre dans une main et une quiche dans l'autre. C'est l'occasion d'échanger autour de quelques thématiques chères au LAG et à ses membres. Par exemple, sur le tourisme, avec un regard critique, celui des décroissants et décroissantes. Sur la situation catastrophique des migrants et migrantes dans le bassin minier, avec le collectif Fraternité Migrants-Migrantes. Sur le nucléaire, sur la Palestine, etc. À 20h30, un concert avec le groupe Black Sheep. C'est du rock, du blues, des reprises de Rival Sons, Arctic Monkeys, Ben Harper, etc. Du bon son en perspective. Et la soirée se termine par un karaoké à paillettes autogérées. Si, si, ce sont les paillettes qui sont autogérées. On est au lac quand même. Le LAG a prévu plusieurs morceaux en karaoké. Surprise, surprise. Mais chacune et chacun peut apporter les siens. Donc, c'est le samedi 20 octobre à 19h, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Eh, on n'a pas tous les jours 6 ans quand même. Et comme d'habitude, toute la soirée est à prix libre. Toutes les informations sur lelag.fr. À présent, je voudrais vous annoncer une exposition d'archéologie industrielle. C'est une exposition de documents d'archives et de photographies à Oigny, au 99 bis. Le photographe Didier Vivien a déjà eu l'occasion de présenter ses œuvres au LAG et a déjà été interviewé par Micro Rebelle. On peut retrouver son interview sur microrebelle.fr. Une petite explication de cette exposition. Le bassin minier regorge de traces liées à l'activité minière, autant de vestiges plus ou moins visibles, mais bien souvent cachés, voire disparus, que l'archéologue industriel, tel un explorateur, s'attelle à dénicher au cours de ses pérégrinations sur les sites. À travers une sélection de documents à la richesse insoupçonnée, cartes postales, photographies, plans, objets, livres, archives manuscrites, l'exposition propose de suivre les pas d'un archéologue industriel. Plonger dans cet univers fascinant pour découvrir la passion partagée par de nombreux acteurs qui contribuent à enrichir la connaissance historique et sensible du territoire. L'exposition est visible jusqu'au dimanche 24 février 2019 à Oigny au 99 bis, tous les mercredis de 14h30 à 17h30, sauf pendant les vacances de Noël, et les dimanches tous les 15 jours, également de 14h30 à 17h30, sauf en décembre, à partir du 14 octobre. Une visite commentée de l'exposition a lieu à 15h. À Grenay, le 10 octobre, une conférence de Jacques Kmiesiak à l'occasion du 70e anniversaire de la grève des mineurs de 1948. Licenciement, amende, incarcération, expulsion. En but à la répression de la République et des houillères, les travailleurs polonais dans la tourmente. Cette conférence sera précédée de la projection du documentaire de Louis Daquin, La grande lutte des mineurs. Ça se passe le mercredi 10 octobre 2018 à 19h à la médiathèque Estaminet, 2 Terre rue Jules Guedde à Grenay. Renseignements au 03 66 54 00 54. Samedi 6 octobre, le collectif ACAD se mobilise. Nous les connaissons bien, ACAD, à Micro Rebelle, puisque nous avons eu l'occasion de leur donner la parole récemment. Ce collectif s'est constitué contre les compteurs communicants, par exemple Linky et Gaspard. Samedi 6 octobre, donc, plusieurs rassemblements sont prévus à 10h30, par exemple devant les mairies de Angres, Grenay, Arnes, Los Angoël, Le Forêt, ou encore un peu plus loin, Lovin-Planck. Ces rassemblements s'adressent en particulier à celles et ceux qui ont le compteur Linky ou Gaspard et qui souhaitent qu'on leur remette l'ancien compteur. En général, ce sont des personnes qui étaient mal informées sur ces compteurs ou qui se sont laissées abuser ou encore qui ont été harcelées, qui ont cédé et qui aujourd'hui veulent faire reconnaître leurs bons droits. À chaque point de rassemblement, ce sont des cahiers de doléances qui seront ouverts et qui seront collectés par le collectif ACAD pour exiger l'abandon de la pose de ces compteurs communicants et le retour aux anciens compteurs. N'hésitez donc pas à vous rendre à l'un de ces points de rassemblement, samedi 6 octobre à 10h30.
Et bien donc...
En fin de rassemblement, à midi, celles et ceux qui souhaitent se rendront devant la mairie de Lens pour un rassemblement central.
Eh bien donc, Touga nous évoquait cette initiative du collectif ACAD contre les compteurs communicants. notamment en direction de celles et ceux, hein, elle l'a précisé, celles et ceux qui ont chez eux, chez elles, un compteur Linky et qui le regrettent, autrement dit qui se sont fait abuser. Alors à Micro-Rebelle, nous avons justement rencontré une personne qui est dans ce cas, c'est Raymond, il est habitant de Grenay. On va tout de suite écouter un échange que nous avons eu avec lui. Donc je suis avec Raymond, dans le bassin minier à Grenay. Alors Raymond, déjà, est-ce que vous pouvez dire pour nos auditrices et nos auditeurs, pourquoi est-ce que vous avez été amené à avoir le compteur Linky ?
Ben, tout simplement parce que on m'a harcelé en disant que s'il y avait des interventions à faire, aussi bien relevé compteur que intervention électrique, c'était à ma charge. Donc j'ai refusé plusieurs fois, puis après une dame d'Arras m'appelait tous les semaines et a insisté grossièrement pour que j'installe ce fameux compteur Linky. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu, mais après au moins 3 mois de refus.
Parce qu'au départ vous étiez contre ?
Toujours, oui, j'ai toujours été contre, oui. Oui.
Alors, depuis l'installation de ce compteur, hein, vous m'avez parlé, hein, avant cet enregistrement, vous m'avez parlé d'une évolution dans votre vie, dans votre santé, dans...
Depuis l'installation, je suis beaucoup plus énervé, je suis obligé de prendre des calmants. Mon ordinateur, j'en ai après ça, ne fonctionne plus. Mon disque dur, ma télévision... À plusieurs reprises, j'étais obligé de la débrancher, la rebrancher, et puis, mais surtout, point de vue santé. Beaucoup, beaucoup plus énervé, et puis être obligé de reprendre des calmants.
Voilà, donc aujourd'hui, votre souhait, qu'est-ce que c'est ?
Mon souhait, c'est de, à vitesse super grand V, c'est de revenir à l'ancien compteur. Parce qu'avant, j'avais pas ces problèmes de santé-là, et puis tout allait bien chez moi. Mais j'ai l'impression que depuis le temps que ce compteur est installé, tous les déboires que j'ai eus, c'est dû au compteur Linky, et surtout ma santé.
Alors Raymond, au-delà de votre cas, qui effectivement est déjà assez significatif, est-ce que dans votre entourage, dans la cité, dans vos amis, dans votre famille, il y a d'autres retours concernant le compteur Linky ?
Apparemment, ma voisine a des problèmes de santé un peu plus importants qu'elle n'avait, de une. Et j'ai un voisin qui, lui, ayant des problèmes de santé assez importants, lui, n'ont pas voulu lui installer, ce compteur Linky. Vu ses problèmes de santé, on dit, chez vous, non, on ne le monte pas, vous avez des problèmes de santé, on ne l'installe pas.
Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'une personne qui a des soucis de santé importants, le Linky pourrait aggraver son cas.
Voilà, exactement. Et j'ai vu un témoignage sur les réseaux sociaux, idem, là, il y a le nom et le prénom de la personne, et lui, pareil, problème de santé, ne l'installe pas. Donc je me dis, ce que je ressens à l'heure actuelle, il y a bien un souci avec les compteurs Linky.
Alors, effectivement, c'est assez significatif. Alors, le collectif ACAD, le collectif contre les compteurs communicants, se mobilise justement pour recueillir des cahiers de doléances, des témoignages de personnes comme vous, comme votre voisine, qui ont le compteur Linky et qui souhaitent revenir en arrière. C'est une action dans laquelle vous vous reconnaissez, vous, Raymond ?
Oh, oui. Et puis je serai présent à chaque fois si le temps me le permet. Mais non, moi je veux absolument revenir avec l'ancien compteur.
Ouais, donc effectivement, la mobilisation c'est dès ce samedi à 10h30 devant la mairie, avec un rassemblement également à Lens à midi.
J'y serai.
Et bien, merci Raymond et puis bonne continuation.
Merci beaucoup à vous.
Et bien après ce témoignage, on reprend notre agenda avec Touga.
Journée de grève le mardi 9 octobre. Il s'agit d'une journée de grève interprofessionnelle avec un appel lancé nationalement par la CGT, par Solidaire, la FSU, et FO, et avec, pour les étudiants et étudiantes lycéens et lycéennes, l'UNEF, la FIDEL et l'UNL. Les infos concernant les manifs. 10h le matin à Arras, devant la gare. 14h30 l'après-midi à Lille, porte de Paris. Cette journée de grève interpro, le 9 octobre, est l'occasion de s'interroger, avec de nombreux travailleurs et travailleuses, sur l'utilité de cette journée d'action. En effet, le contexte des luttes n'est pas des plus enthousiasmants. Tout d'abord, en face, ça cogne. Nouvelle réforme des retraites, suppression des postes et précarisation massive des emplois dans la fonction publique, attaque contre les droits des chômeurs, blocage des pensions de retraite, etc., etc. La machine à broyer est lancée à pleine vitesse. Du côté des travailleurs et travailleuses, ces dernières années ont vu un certain défaitisme s'installer. Certains et certaines estiment que les manifs d'un jour sont inefficaces pour faire reculer le gouvernement et le patronat. D'autres sont pour une grève générale, mais ajoutent ne pas vouloir perdre une journée de salaire pour une grève sans lendemain. Comment dépasser ce défaitisme ? Sans doute en développant des luttes sectorielles gagnantes. C'est sans doute nécessaire pour redonner confiance aux salariés, dans leur capacité de faire reculer le gouvernement et le MEDEF. Et dans de nombreux secteurs, les motifs ne manquent pas. Par exemple, à l'occasion de la négociation de la convention collective du rail. Ou encore, et ça concerne de nombreux et nombreux salariés du bassin minier, concernant le refus du travail le dimanche. En ce sens, la journée du 9 octobre peut avoir son utilité. Par exemple, en contribuant à remobiliser les équipes syndicales, secteur par secteur. Et puis, concernant chaque journée d'action, au final, le plus important, c'est le travail en amont. Travail syndical dans les entreprises, et plus généralement, travail militant, devant les gares, les marchés, dans les quartiers. Il est vrai que ce travail militant en amont des journées de mobilisation, a beaucoup reculé ces dernières années. Il est pourtant essentiel, par exemple pour décrypter les messages du gouvernement et du MEDEF. En ce sens, même si la journée d'action du 9 octobre ne sera sans doute pas un raz-de-marée, elle peut néanmoins être utile.
Vous écoutez toujours Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà, émission rediffusée sur Radio PFM à Arras et sur Radio Plus à Douvrin. On va diffuser un peu de musique libre maintenant, ça s'appelle Avaluna Clips.
That you don't make, you get down and you get back up again. Ooh, and you get back up again. But how do you respond? How do you
dangerous one, and you might just make me lose my cool.
On account of you,
I always knew you were a dangerous one.
On account of you,
you might just make me lose my cool, girl.
On account of you,
I always knew you were a dangerous one.
On account of you.
Eh bien, on est toujours sur Micro Rebelle, dans Micro Rebelle Hebdo, notre magazine hebdomadaire. On vient d'écouter l'agenda, puis de la musique libre. C'est maintenant l'heure de la revue de presse, et c'est une de nos adhérentes, hein, Nadine, qui s'y est collée.
Quelques articles dans la presse locale reviennent sur la mort d'un jeune homme tué par un gendarme à Fouquier-les-Lens. Il nous faut bien constater que cette actualité aurait mérité une couverture journalistique plus large, y compris au niveau national. Il a donc 24 ans, il est de la communauté des gens du voyage, et il s'est fait tuer à bout portant dans sa voiture par un sous-officier du GIGN dans le cadre d'une interpellation à l'occasion d'une enquête sur des vols et cambriolages dans le bassin minier. Pourquoi le GIGN ? Il semblerait que la gendarmerie d'Arras, en charge de l'enquête, ait jugé utile de leur faire appel. Cette mort s'ajoute donc à une liste déjà bien longue des jeunes tués par les forces de l'ordre, par exemple dans l'actualité récente Adama Traoré. La famille du jeune homme a immédiatement réagi et s'est confrontée aux forces de l'ordre avec caravanes barrant les routes et voitures incendiées. Le sous-officier du GIGN à la gâchette facile a finalement été mis en examen. Nous suivrons ce qu'il en adviendra. Si l'on regrette, nous l'avons dit, la faible couverture de cet événement, seulement 2 jours au niveau local et quasiment rien au niveau national, on peut aussi s'interroger sur la posture qu'ont choisi de tenir les journaux locaux. Nulle part il n'est fait mention de la gâchette facile des policiers, gendarmes et autres GIGN, et des nombreux jeunes qui en sont morts. Par contre, presque nonchalamment, La Voix du Nord écrit, je cite, « La victime était d'ailleurs, selon source judiciaire, défavorablement connue des services de police. » Fin de citation. Défavorablement connue des services de police. Que ces choses sont joliment dites. En filigrane, ce sont toujours les pauvres, les exclus, les marginaux qui sont responsables de ce qui leur arrive, y compris leur mort violente. Et les dominants, les nantis, les forces de l'ordre qui représentent le droit chemin. Ce n'est pas notre conception, un micro-rebelle. Il y a 15 jours, Micro Rebelle recevait Benoît du collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62 à propos des migrants pour la plupart soudanais qui se sont installés au bord de l'autoroute A26 à Angres. La Voix du Nord, dans son édition du 3 octobre, vient aussi sur ce sujet suite à la lettre ouverte qu'un collectif d'associations a adressée au préfet concernant la situation de ces migrants. Nous nous sommes procurés cette lettre ouverte et nous vous proposons de la partager avec vous. Monsieur le Préfet, nous souhaitons vous alerter sur la situation inhumaine que vivent les migrants à Angres. Depuis plus de 10 ans, des migrants sont présents à Angres aux abords de l'aire d'autoroute A26 conduisant à Calais. Ils souhaitent se rendre en Grande-Bretagne. Jusqu'au début de cette année 2018, ces migrants étaient d'origine vietnamienne. Au fur et à mesure des années, le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62, en partenariat avec la municipalité de Angres, a œuvré à l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment dans le cadre d'une maison désaffectée, ce qui leur permettait d'avoir accès à un abri et à l'eau, au-delà des douches hebdomadaires et de l'accès aux soins. Au printemps dernier,
vous avez demandé à la municipalité de Hang de prendre un arrêté d'expulsion et de démolir la maison. Nous avions alors alerté sur le devenir des migrants qui, dans un premier temps, ont été envoyés en CAO et qui sont revenus sur le secteur. Leur installation dans les bois, dans une grande précarité, a nécessité un important investissement associatif. La gendarmerie et la police ont engagé, pour leur part, une véritable chasse à l'homme avec démolition des abris de fortune successifs. Fin juin, vous avez pris un arrêté de fermeture du parking réservé aux poids lourds. Les migrants vietnamiens sont partis fin juillet suite à ce harcèlement. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Fin août, sont arrivés de nouveaux migrants, majoritairement d'origine soudanaise, mais aussi des pays limitrophes du Soudan. Des hommes entre 20 et 30 ans environ, mais aussi environ 20% de mineurs. Tous souhaitent rejoindre la Grande-Bretagne, même si certains ont engagé des procédures de demande d'asile et sont sous le coup de l'application du règlement Dublin. Au début, ils étaient une dizaine, il y a 3 semaines une trentaine, et le nombre ne cesse d'augmenter. Ils sont installés aux abords de l'aire d'autoroute, sur des terrains appartenant à la SANEF. Depuis peu, ils ont installé des bâches pour se protéger de la pluie. Les gendarmes, mais aussi la police, viennent tous les jours pour compter les migrants et leur intimer l'ordre de partir. Ces migrants sont totalement démunis. Ils vivent dehors, sans accès à l'eau, sans nourriture, sans sanitaire. Des associations se sont mobilisées pour apporter de la nourriture et de l'eau tous les jours, pour soigner ceux qui en ont besoin. Depuis quelques jours, vous avez demandé à Madame le maire d'Angres de prendre un arrêté demandant le démantèlement du camp alors que celui-ci se trouve en territoire de l'État, le long de l'autoroute. Nous savons qu'une expulsion, même si elle s'accompagne de placements en CAO, conduira au retour des migrants qui seront alors dans une précarité encore plus grande. Nous ne connaissons pas les mesures d'hébergement que vous serez en mesure de proposer afin de ne pas exposer les occupants à une situation d'extrême dénuement ou relevant de traitements inhumains et dégradants, ni si les personnes mineures pourront être prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais on a vu le résultat lors des précédentes opérations qui ont été menées et qui ont conduit à la situation actuelle. Vous comprendrez donc notre extrême perplexité. Nous vous demandons de surseoir à ce démantèlement. Nous ne souhaitons pas le maintien d'un camp inhumain, mais nous demandons à ce que l'État assure ce qui relève de sa responsabilité, l'aménagement d'un accueil inconditionnel par l'installation à proximité de l'aire d'autoroute, d'abris durables, de sanitaires, de douches et d'un accès à l'eau potable. Depuis quelques jours, les bénévoles associatifs qui pallient les manquements des autorités nationales font l'objet de pressions des forces de l'ordre, de menaces de procès-verbal lors du transport de la nourriture qui nécessite d'emprunter la voie privée d'accès à l'aire d'autoroute et de stationner à proximité de celle-ci. Nous demandons que cessent ces intimidations et que les bénévoles associatifs puissent agir sans risque de verbalisation. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations distinguées. Les associations signataires de cet appel sont le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62, Debout Ensemble, Symbiose Action, Aleds, Saint-Ouen-Illois, L'Île de la Solidarité, Arras Solidarité Réfugiés, Elfoued, RESF Arras Lens, CCFD Terre Solidaire Délégation 62, la CIMAD Lanciévin et Nord Picardie, Artisans du Monde de la Goëlle, Culture et Liberté 62. Si vous souhaitez réagir à ce courrier auprès du collectif signataire, le contact est fraternité.migrants, migrants au pluriel, @free.fr. Tout à l'heure, Touga a évoqué les rassemblements contre les compteurs Linky le samedi 6 octobre à l'initiative du collectif ACAD. Liberté Hebdo de cette semaine nous parle également d'Enedis, mais pour un tout autre sujet. Je vous lis les extraits de ce compte rendu dans Liberté Hebdo. Compte rendu titré « À Enedis, le management par la peur ». La répression tous azimuts, telle est la stratégie choisie par la direction nationale d'Enedis à l'encontre de ses agents mobilisés depuis février contre notamment la perspective de suppression d'emplois au sein de cette filiale d'EDF en charge du réseau de distribution d'électricité. Dans le cadre du plan à moyen terme PMT,
Près de 2500 postes sont sur la sellette d'ici 2020, dont 170 pour le seul Nord-Pas-de-Calais, dit Lolita Leno, secrétaire générale de la CGT Mine-Énergie du secteur Flandre-Artois-Littoral. Casse du service public, dégradation des conditions de travail, manque de moyens humains, mal-être au travail, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. La CGT mène la contre-offensive et fait désormais face à une réaction inédite de l'employeur. Ce dernier, en effet, multiplie les plaintes contre les manifestants. Ainsi, depuis le 24 août dernier, 13 agents sont entendus individuellement par la gendarmerie de Watt dans l'Automarois à propos de la dégradation d'une dalle de béton au poste source de Holk, selon la CGT du Pas-de-Calais. Le 17 septembre, c'était au tour de Lolita Leno d'être convoquée au commissariat de Calais pour, je cite, « des pneus dégonflés et des caméras de surveillance retournées » dans le cadre d'une action menée fin juin sur le site d'Enedis à Calais. C'est du jamais vu. En 2010, les actions contre la réforme des retraites avaient été beaucoup plus dures et les syndicalistes ne se souviennent pas d'avoir eu cette réaction de la part de la direction. Cette fois-ci, elle a déclaré la guerre. Elle multiplie aussi les recours devant les commissions de discipline avec des mises à la retraite d'office, l'équivalent de licenciement. On touche même maintenant aux salariés protégés. Lolita Leno stigmatise ce management par la peur. Un article à partager avec vous dans Liberté Hebdo sur la précarité numérique. On les appelle les crowd workers, en français les ouvriers du clic. Leur extrême précarité inquiète l'Organisation des Nations Unies, qui dénonce leurs conditions de travail dans le rapport sorti le 20 septembre. Ces petites mains, employées notamment par Amazon, Clickworker ou Crowdflower, pour réaliser une multitude de micro-tâches rapides et répétitives, sont payées sous le salaire minimum. Le rapport pointe notamment Amazon, puisque presque deux tiers des crowdworkers travaillent pour le géant américain et touchent moins que le salaire minimum de 7,25$ par heure. Pour l'Organisation internationale du travail, l'apparition de ce job précaire marque un retour en arrière. Ce poste, ajoute l'OIT, représente un retour au procédé industriel déqualifié associé à Taylor, mais sans la loyauté et la sécurité de l'emploi. Du métier à tisser à l'ordinateur, le capitalisme, c'est décidément toujours retour vers le futur. Lu pour vous dans l'avenir de l'Artois, à Avion, des lycéens de Picasso, du lycée Picasso, sont en grève. Jeudi 27 septembre à 9h30, les lycéens du lycée Picasso d'Avion entamaient un défilé contre la suppression de la seconde professionnelle gestion et administration. La dernière rentrée avait déjà été sanctionnée par la fermeture d'une demi-classe. Cette annonce sonne donc la mort annoncée de la filière, alors que le concours pour devenir enseignant dans ce domaine est toujours ouvert. Ils étaient une cinquantaine à défiler jusqu'à l'hôtel de ville où ils ont trouvé le soutien du maire, Jean-Marc Tellier. Ce dernier déplore le dommage collatéral de cette fermeture, à savoir deux postes de vacataires qui ont été supprimés. Un nouveau rendez-vous avec le rectorat a été pris cet automne pour statuer sur le retour ou non de cette filière à la rentrée 2019.
Eh bien, pour compléter la revue de presse de Nadine, je voudrais évoquer un autre article de Liberté Hebdo cette semaine. Cet article concerne la libération de Salah Hamouri. Donc ce n'est pas de l'actualité locale, mais il nous a semblé important d'évoquer quand même cette actualité qui a été assez peu médiatisée. Quelques extraits de cet article de Liberté Hebdo. Salah Hamouri, enfin libre. L'avocat franco-palestinien était emprisonné depuis plus d'un an. Son cas illustre le scandale de milliers de détentions arbitraires. Dans le Nord, ses soutiens poursuivent la mobilisation pour les droits des Palestiniens. Malgré les difficultés, la santé ça va. J'ai tout fait pour garder bon moral. Salah Hamouri conserve l'envie d'agir. Le jeune franco-palestinien vient de sortir de prison. Il a été libéré le 30 septembre, après 13 mois d'une détention dont il ignore le motif. Le régime de la détention administrative permet au gouvernement d'Israël d'enfermer quiconque sans qu'un juge le décide. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'étais détenu. Ni mon avocat, ni moi n'avons eu accès au dossier rédigé par les services de renseignement. Je suis considéré comme un danger pour la sécurité pour la sécurité d'Israël, mais je ne suis accusé de rien, rapportait le trentenaire sur l'antenne de France 24 après sa sortie de prison. Avant de retrouver ses soutiens, Salah Hamouri a été amené à Jérusalem, où des agents israéliens lui ont signifié leurs conditions. « On m'a imposé de ne pas me trouver dans une manifestation ou un rassemblement avec drapeau palestinien ou des slogans contre l'occupation pendant 30 jours », explique le jeune militant. Ce dernier souhaite reprendre ses études de droit et réunir sa femme et son fils à Jérusalem. Sa femme, Elsa Lefort, est interdite d'entrer sur le territoire israélien. Fervent défenseur des droits des Palestiniens, Salah Hamouri est particulièrement attaché aux conditions de détention des prisonniers politiques et à la lutte contre l'occupation israélienne en Palestine. Avec tous les militants et les élus qui ont œuvré pour sa libération, nous nous réjouissons de la libération de Salah Hamouri tout en observant que ces 13 mois de détention auront été le symbole de l'injustice subie par 6000 prisonniers politiques palestiniens actuels, dont 300 enfants et 400 détenus en détention administrative, et tous ceux qui ont été antérieurement emprisonnés, souligne ainsi l'association France-Palestine Solidarité. Une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens passe par la libération des prisonniers politiques, estime le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP. Voilà, c'était donc quelques extraits de cet article du journal Liberté Hebdo concernant la libération de Salah Hamouri. Alors en l'occurrence, Salah Hamouri est traqué pour ses idées. Il avait déjà été détenu entre 2005 et 2011, accusé à l'époque, sans l'ombre d'une preuve, d'avoir projeté un attentat contre un rabbin extrémiste. La libération d'Hamouri est assortie d'une interdiction de participer à toute célébration pendant 30 jours, ainsi qu'à toute activité militante. Mais les restrictions concernent aussi son épouse française, à qui les demandes de visa sont régulièrement refusées. Autant de mesures destinées à contraindre Salah Hamouri à quitter le territoire palestinien sans retour. Tout au plus, la diplomatie française s'était dite, le 23 août, préoccupée par le sort du jeune homme, tandis qu'Emmanuel Macron refusait toujours de recevoir son épouse. Alors on va compléter cette revue de presse, on va terminer cette revue de presse, par le hors-série du journal Politis, qui est justement consacré à la Palestine. Ce hors-série s'intitule « Israël-Palestine, une si longue histoire ». Je vous lis un extrait de l'éditorial de ce numéro spécial. C'est une histoire qui dépasse de beaucoup les frontières du Proche-Orient et ne cesse de produire ses effets dévastateurs de racisme et de haine jusque dans nos régions. Nous avons l'habitude de parler de centralité du conflit et nous persistons dans cette analyse régulièrement contestée quand l'actualité se déplace et lorsque la question palestinienne paraît, un temps, reléguée à l'arrière-plan. Mais immanquablement, elle refait surface, et il en sera ainsi tant qu'elle ne sera pas réglée, parce qu'elle porte en elle des symboles qui la dépassent. C'est l'histoire de la double trahison du monde arabe au début du XXe siècle par les puissances occidentales, avec les accords Sykes-Picot et la déclaration Balfour. C'est l'histoire d'un colonialisme d'un autre âge qui occupe, exproprie et exprime sous les regards indifférents ou complices des grandes nations. C'est l'histoire d'un crime commis à l'encontre d'un peuple en impossible réparation de la Shoah dont il est totalement innocent. C'est l'histoire d'un défi permanent au droit international, d'un mépris absolu pour les résolutions des Nations Unies quand celles-ci ne sont pas tout simplement empêchées. Pour le dire en un mot, c'est l'histoire de la faillite morale et politique des puissances occidentales. Le lecteur, continue cet éditorial, trouvera donc ici un dossier complet organisé en quatre séquences. Les origines du conflit et ses grands tourments, le récit des répressions et des résistances au travers de reportages sur les luttes de la colonisation, le rappel des impasses diplomatiques, enfin, l'analyse des retombées sur nos sociétés, notamment à travers le débat sur le sionisme, l'antisionisme et l'antisémitisme. En conclusion, nous proposons quelques perspectives pour dépasser l'impasse actuelle. Disons-le tout net, nous n'avons pas recherché l'objectivité qui est une chimère, et dans une affaire aussi déséquilibrée, la forme la plus hypocrite du mensonge. Nous avons recherché la vérité. Donc c'est un numéro spécial de Politis consacré à l'actualité au Proche-Orient, un dossier que nous vous recommandons la lecture.
Seconde apostrophe musicale dans ce micro-rebelle hebdo. Ça s'appelle Thiago Trad et le titre c'est Purificação.
bien toujours sur Micro Rebelle, Micro Rebelle Hebdo. Lucien et Luc en studio. Alors Luc, cette semaine tu as eu l'occasion d'assister à un échange concernant une expulsion sur le territoire.
Exactement, donc mercredi au LAG, Sergio qui est angolais était réuni avec des personnes du réseau Éducation sans frontières. Donc Sergio est arrivé en France en 2016, il a été débouté de sa demande d'asile une première fois, il a fait appel au CNDA, donc c'est le Conseil National des Demandeurs d'Asile, ça, il a également été débouté. Il a demandé un titre de séjour en préfecture pour être régularisé, ça veut dire qu'à ce moment-là on lui avait refusé le statut de réfugié. Alors que c'est quelqu'un qui a été persécuté, mais bon, généralement on ne demande pas de certificat de persécution avant de s'enfuir de son pays. Il a fait une demande de titre de séjour à la préfecture qui a été refusée, il a fait appel au tribunal administratif, ça a été, donc le refus a été confirmé, et là il fait appel à RESF pour l'aider à constituer son dossier, parce qu'effectivement il y aurait eu visiblement des manques, il n'était peut-être pas assez solide pour pouvoir être soutenu au tribunal administratif. Donc il constitue un dossier solide pour montrer les preuves de son intégration depuis 2 ans. Preuve en est, il est arrivé, il ne parlait pas français et aujourd'hui il parle quand même plutôt bien français, on va l'écouter.
Je m'appelle Sergio. Je suis de nationalité angolaise. J'ai fui mon pays à cause de l'injustice, de la justice de notre pays. Et j'ai passé pour Namibie, Zambie et Congo RDC. Et j'ai fait au Congo RDC 4 mois, pénible. J'étais caché dans une ferme parce que les Congolais, avec nous les Angolais, on ne s'entend pas. Parce que les Congolais disent que c'est nous qui supportons le gouvernement congolais. Et après, la personne qui nous a hébergés, il nous a cherché quelqu'un qui nous a amené ici en France sans passeport. Mais quand je suis arrivé en France sans passeport au niveau des aéroports, bon, je pensais que c'est fin du monde pour moi. Je ne parlais pas bien français du tout et je ne comprenais pas. Je suis sorti à l'aéroport. La personne qui nous a amené, ils nous ont mis dans le taxi. Nous sommes trouvés à Lille et je pensais que Lille c'est Paris. Bon, c'était étonnant. Bon, moi, comme je ne savais pas, je suis resté ici en Lille. J'ai fait les demandes au niveau de la préfecture. J'ai déposé mon demande de dossier d'asile. Et la maison était sortie en Salomine, là que je suis. Et après, je suis allé au niveau de l'OPRA. Et, on m'a interrogé, mais comme je ne parlais pas du tout français, je ne savais rien. Mon français, c'était bonjour, bonsoir. Mais j'ai fait mes efforts, l'intégration, pour se communiquer avec les autres. Et au niveau des bénévolants, j'ai fait des bénévolants. Pendant que je suis ici en France, j'ai fait des bénévolants. Les collègues des bénévolants là, que j'ai fait, ne m'ont pas parlé français jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je parle correctement ou je ne parle pas correctement, mais je suis vraiment avec, comment on dit, le courage pour que je puisse parler bien français, s'intégrer bien, savoir la loi française, qu'est-ce qu'elle dit, et se communiquer avec la communauté aussi française. Et au niveau du boulot et ma capacité, j'ai fait mes études, j'ai travaillé aussi. Ce n'est pas évident de laisser mon travail pour venir ici, si je suis ici en France à cause d'une chose. Ce n'est pas mon pays, nous n'avons pas de problème économique. Moi, je suis angolais, mais c'est le problème de notre justice, de ce que j'ai subi. J'ai perdu mon frère. On a tué mon frère à cause de moi. Ils ont confondu mon frère avec moi. Quand on a tué mon frère, je n'ai pas participé même au funérailles de mon frère. Et c'est pour cela que je suis ici en France, pour qu'on me protège. Mais quand même, je suis allé à l'OPRA, ils ne m'ont pas prouvé ça. Et à CNDA aussi, on m'a donné avis de quitter. J'ai peur de rentrer à mon pays parce que si je rentre de ce que j'ai vécu, on va me tuer parce que je suis seul maintenant dans ma famille. J'ai une petite famille ici, ma femme et mon enfant, il est scolarisé ici à l'école, ça c'est la 3e année. Mais en fait, on a l'association que j'étais au niveau à Liévin, ils ont fait une demande pour moi de régularisation de séjour, carte de séjour. Mais ils m'ont conduit dans une erreur. Pourquoi Ils ont mis la justification de mon nationalité de madame et ils n'ont pas mis de l'intégralité que j'ai fait ici en France, des bénévolants, des promesses de l'embauche, tout ce que j'ai fait. Et comme aussi je parle français, vous êtes en train de m'écouter, j'ai besoin de soutien. J'ai l'enfant qui est à l'école. Je ne sais pas comment s'en sortir. Je demande du soutien à les associations qui me suivent à ces moments pour qu'ils puissent me soutenir pour ne pas qu'on me fasse l'imposer pour aller au mon pays parce que j'ai un danger à mon pays. C'est pour cela que je suis ici en France. Bon, pour le moment, les procédures, on a déposé les dossiers au niveau de la préfecture. Mais comme la préfecture elle a prouvé qu'il n'y avait pas aucune chose qui prouve que je me s'intègre ici en France, oh, moi j'ai des papiers, des épreuves tout qui prouvent que je suis vraiment bien intégré ici en France. La préfecture a boycotté, mais j'ai des épreuves. J'ai les certificats, j'ai des embauches, j'ai des papiers des élèves à l'école. Bon, je ne sais pas quel type d'intégration. Or, auparavant, je ne parlais pas français, je ne savais rien du tout. J'ai fait vraiment des efforts de 2 ans que je suis ici en France, depuis 2016. Pour l'avenir, comme tout le monde pense qu'il faut qu'il y ait un avenir meilleur, mon besoin de, si un jour on me donne les protections de ma carte de séjour, j'aurais besoin de travailler, de contribuer comme l'État français, comme la loi française dit. Moi, je suis courageux, je vais s'intégrer, j'ai besoin de travailler, j'ai le courage. Quand je serai, j'aurai les papiers, je voudrais travailler comme les autres qui travaillent. Parce que j'ai ma petite famille, il faut que j'héberge la famille que j'ai. C'est ça mon objectif.
Vous avez entendu le témoignage de Sergio, donc, qui recherche justement des preuves d'intégration. Donc si vous écoutez cette émission, que vous le connaissez, vous pouvez apporter votre soutien en écrivant pour montrer qu'il a fait du bénévolat, qu'il fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer. En écrivant soit à la Maison des Sociétés RESF Arras Lens, Maison des Sociétés 16 Aristide Briand à Arras, ou vous pouvez écrire au LAG où s'était d'ailleurs tenue cette réunion, c'est au 23 rue Jean Jaurès à Liévin. On va doucement couler vers la fin de cette émission avec un dernier morceau de musique, c'est In My Bed de Rocco Granata. And baby, I'm so now I hope for her, I hope that we can get it on. Now I hope for her, I hope that we can get it on. My head.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. Hein. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. On vous rappelle que toutes nos émissions, parce qu'il n'y a pas que Micro Rebelle Hebdo hein, sur Micro Rebelle, il y a de nombreuses autres émissions. Donc toutes nos émissions sont podcastables, téléchargeables sur notre site micro-rebelle.fr. Et puis d'une manière générale, n'hésitez pas à nous solliciter hein, pour des reportages, pour des chroniques, des débats radiophoniques, des échanges. Très bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine dès 18h, hein, vendredi prochain, en direct sur micro-rebelle.fr. Et puis, dans la semaine, chez nos amis de PFM 99.9 et Radio Plus 104.3.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.